Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée du Festival du Premier Roman de Chambéry qui, on espère, restera ensoleillée. Je suis ravi de vous accueillir et surtout d'accueillir Rouda et Sarah Mishkin, tous les deux lauréats du festival, pour cette rencontre qui s'intitule « Les mots pour dire sa vérité ». Alors ici, on a un plateau avec un auteur, une autrice, deux romans de mots, deux romans à la langue poétique, deux romans à la langue musicale, mais surtout qui appellent à réfléchir, à penser, à poser des questions, à trouver ces mots, deux romans sur le pouvoir des mots, la transmission qui se rejoignent par une thématique qu'on abordera ensemble, le pouvoir de dire grâce à l'écriture, l'engagement par l'écriture, l'engagement par les mots, par le politique aussi, on le verra, mais surtout par vos parcours de tisseurs, tisseuses des mots, slameurs, poètes. Rouda, vous êtes rappeur, vous êtes auteur, compositeur, interprète, aussi poète, et vous avez publié ce premier roman, je vais essayer de ne pas faire tomber la bouteille, Les mots nus, aux éditions Liana Lévy, en janvier 2023. Dans Les mots nus, vous racontez l'histoire de Benji, à partir de 1990. C'est une véritable fresque, on va dire, d'un jeune homme qui a grandi dans un quartier, le quartier Ernest Labrousse, qu'on appellera ensuite Labrousse. Un garçon assez studieux, qui partira ensuite étudier à Paris. Un jeune homme qui va voir naître l'étincelle pour allumer l'embrasement. Cet embrasement, c'est celui des luttes sociales, des luttes collectives qui écoutent la France. C'est un premier roman vif, combatif, mordant sur l'amitié collective de ce qu'on appelle les banlieues. Sarah Mishkin, vous êtes poétesse, écrivaine, performeur, chercheuse. Vous avez publié des recueils de poésie, notamment L'été, aux éditions Roche Belles Lettres, mais également un deuxième recueil chez Blast, et un premier roman, De minuit à minuit, en février 2023, aux éditions Le Bruit du Monde. De minuit à minuit, c'est un roman qu'on pourrait qualifier dans une forme libre, du vers libre même, une mère qui écrit une longue lettre à sa fille qui vient de lui être retirée. Cette longue lettre, éminemment touchante, c'est à la fois une lettre intime, une lettre politique où cette mère revient sur les déterminismes sociaux, les drames intimes qui a bouleversé la vie de cette femme, sa relation avec sa fille notamment, et aussi sous-jacent son addiction au crack. Alors pour commencer, tous les deux, pour rentrer un petit peu dans cette rencontre, on va commencer par le pourquoi du comment. Et Sarah, on va commencer avec vous. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce texte, cette longue lettre d'amour qui raconte cette histoire tragique d'une mère à qui on retire sa fille ?
Alors ça, enfin, on en parlait un peu avec Rouda, notamment hier, je crois. Ça fait partie des questions où on répond a posteriori, mais on n'avait pas forcément de réponse quand on était en train d'écrire. Moi, quand j'écris, c'est pas du tout un processus conscient, intellectualisé. J'ai pas d'idée où je veux aller, etc. Juste, j'écris en continu, j'écris tous les jours, quoi, et la nuit. Et quand j'arrive à quelque chose, mais c'est vraiment dans le corps que je le sens, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose qui vibre particulièrement. Et je sens que ouais, j'arrive à une écriture qui est juste. J'arrive à quelque chose qui... Je ne sais pas exactement ce que ça va être. Ça peut être un roman, ça peut être un recueil de poésie, ça peut être du théâtre, ça peut être... Mais même ça, ça me prend du temps. Et ouais, je n'ai pas la projection, je n'ai pas la narration, je ne sais pas exactement où la personne veut aller. Et j'ai au contraire beaucoup la chose, particulièrement ce livre-là, c'était ça. J'avais juste l'impression que la mère me parlait, quoi. Et moi, j'écrivais. Mais du coup, c'est pas un rôle d'écrivaine, c'est vraiment un rôle de témoin, quoi. C'est-à-dire que, oui, la personne me dit, moi, j'écris, mon travail s'arrête là. Mais du coup, en ce sens-là, enfin, ça a mis, en fait, longtemps. J'ai écrit beaucoup, en fait, avant de même comprendre que, OK, t'es en train d'écrire un roman, et c'est cette histoire-là qui est racontée. Maintenant, du coup, ça, a posteriori, je me suis rendu compte que ce que je cherchais à ce moment-là, c'était de trouver une voix qui pourrait porter toutes les voix, ce qui est forcément un échec, quoi, mais toutes les voix qui sont silencieuses. Et du coup, cette femme-là, qui est issue de l'immigration, qui a un parcours d'exil, ensuite qui a un parcours social qui est extrêmement difficile, etc., qui tombe dans une addiction au crack, elle permettait en fait d'être à l'intersection d'énormément de dominations, et d'être dans des marges, qu'on appelle les marges, quoi. Mais du coup, pour moi, c'était important de... Enfin, c'est plus qu'important, en fait. C'était nécessaire de pouvoir avoir cette voix-là pour et rendre justice, du coup, à toutes les personnes qu'elle portait avec elle dans son existence, et ensuite aussi pour parler de la société, en fait. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très... Enfin, justement, ça, à chaque fois qu'on parle des marges, quelles qu'elles soient, que ce soit des classes sociales, que ce soit classe minorité de genre, minorité raciale, etc., c'est toujours dans un sens de, oui, comme si c'était détaché de des personnes qui appartiennent à la norme. Et en fait, ces personnes-là disent énormément aussi du fonctionnement de la société et de la société, du coup, qui est aussi à l'intérieur de la norme, quoi. Donc, je voulais ce regard-là et qu'il soit un regard situé. Et du coup, la colline, c'est devenu aussi un endroit, comme si, oui, c'était un endroit un peu surélevé où elle pouvait avoir un regard panoramique, en fait, sur toute la société française, quoi. Et donc, je pense qu'il y avait ça. Et après, il y avait aussi juste le... tout ce qui est le côté de, oui, de la transmission et tout ça. Enfin, je pense que j'avais beaucoup ça aussi. Et ça, qui sont informés par nos existences intimes dans tous les cas, quoi. Et moi, je ne suis pas une mère, mais je suis une fille, du coup. Et j'ai perdu mes deux parents quand j'étais enfant. Et mon père, c'était un immigré, du coup, tunisien noir, de classe populaire. Il est mort d'une crise cardiaque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, du coup, seulement il y a quelques années. Mais en fait, ces existences-là, enfin, moi, c'est arrivé dans ma vie. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose de, voilà, qui sortait de nulle part et qui n'avait aucun sens. Mais en fait, en termes de statistiques, les personnes qui viennent des Suds, de classe populaire, la première cause de mort, c'est les crises cardiaques. Et ça, c'est parce que les trajectoires d'exil, le racisme qu'on vit du coup au quotidien avec ça, le rapport avec la mort et ensuite les boulots extrêmement difficiles aussi qu'on porte quand on vient de ces classes populaires-là et en plus des Suds, font que le corps absorbe tout et qu'au bout d'un moment, le cœur saute. Et ma mère, elle s'est suicidée et c'est une personne qui a été incestée et qui a ensuite eu énormément de troubles de santé mentaux, etc. Et donc, même chose, c'est des parcours, en fait, qui sont tracés par la mort. C'est ça, en fait, ce système-là, c'est la nécropolitique, quoi. Donc, c'est politique de la mort. Et elle, donc, c'est une vie qui a été tracée par le patriarcat, du coup, les dominations des hommes sur les femmes et les minorités de genre, et aussi par les dominations adultes-enfants. Et donc, moi, ma vie, c'était aussi une espèce de produit de tout ça, quoi. Mais en n'ayant vécu aucune de ces choses-là complètement, mais en héritant quand même de toutes ces blessures-là. Et évidemment, enfin, il y a quelque chose pour moi où écrire, ça a tout de suite été quelque chose de l'ordre de...
De la nécessité.
De la nécessité, déjà, et ensuite d'une responsabilité qui était immense, quoi. Enfin, je trouve que dans tous les cas, quand on porte une parole publique, il y a quelque chose de la responsabilité, de l'ordre de la responsabilité, particulièrement quand on vient d'existences minorisées. Et comme orpheline, moi, évidemment, je ne porte pas seulement ma vie, je porte la vie de mes parents, quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre de ma vie qui rend justice, même plus que ça, qui est vengeance pour mes parents, quoi. Et c'est quelque chose que je voulais porter dans le livre ensuite. Et après, plus j'avance aussi dans ma trajectoire et plus j'ai l'impression, et c'est quelque chose que Maya Angelou, elle disait beaucoup aussi, mais elle disait, moi, quand je me lève, il y a 10 000 personnes qui se lèvent avec moi. Et ça, moi, c'est quelque chose que je sens beaucoup, que ce soit vraiment les ancêtres, du coup, et donc de manière familiale, mais il y a aussi quelque chose de plus large que ça, qui est que socialement, intimement, il y a beaucoup de personnes qu'on porte avec nous, nos existences à nous sont en résonance avec ces personnes-là, quoi. Et donc, le fait de parler pour nous, ça veut dire qu'on parle pour elles aussi, quoi. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui a informé ce livre-là, mais qui informe ma poésie généralement. Et qui, pour moi, si mon écriture, elle ne part pas de ce point-là, je ne vois pas l'intérêt. Il vaut mieux me taire, quoi.
Rouda, en parlant de parole publique, vous, on entre dans votre texte par votre univers, le slam, et ça commence fort. Je vous cite, je suis de la génération des émeutes, de la fin, des guerres d'Irak, de la chute du mur de Berlin. Un peu plus loin, je suis une bombe entre les mains d'un fou. Vous, quelle a été votre idée de départ pour écrire ce texte ?
Alors déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là. Merci Sarah, je suis extrêmement touché parce que je découvre aussi des choses sur toi, c'est très beau. Moi, ça, je pense que c'est un mélange. Il y a une part un peu d'intuition, un peu mystérieuse, on ne sait pas trop. Il y a une envie profonde. C'est de transformer le réel. Moi, j'ai été témoin des émeutes de 2005 et de 2007. Et très sincèrement, la question que je me suis posée immédiatement, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si ces révoltes étaient animées d'une pensée politique, d'une pensée collective, et que la lutte se déplaçait ailleurs que dans nos propres quartiers. Donc, il y a déjà cette envie très, très identifiée d'inventer quelque chose, de partir du réel et de basculer à un moment dans la fiction. Écrivant depuis longtemps, voilà, c'est un support qui m'intéressait d'explorer, c'est-à-dire la narration au très long cours. Et après, ça part aussi d'une certitude, en fait, que toutes les logiques que j'essaye de démonter dans mon roman, les logiques de solitude, d'abandon, de stigmatisation, de chômage, de misère, de déclassement, sont des logiques qui se reproduisent en permanence. J'ai sorti ce roman en janvier, et l'été d'après, la France a été à nouveau secouée par des révoltes populaires. Et voilà, donc je crois qu'il y a un mélange un peu de plein de choses inexplicables et de choses très ancrées, très réelles, très palpables. Et je crois que l'envie d'un auteur, quand il écrit, c'est d'attraper des petits bouts du réel et de les digérer à sa sauce, de leur donner un autre visage, une autre couleur, et d'essayer de les partager ensuite pour partager des idées.
Vous emparez de ces bouts de réel et vous deux, vos textes, vous emparez de ces mots et vous essayez de trouver une forme pour le dire. Vous, Sarah, vous êtes issue de la poésie, vous en écrivez, on en parlait. Est-ce que la question de la forme de ce texte, justement, en vers libre, qui commence par une anaphore, s'est posée au moment de l'écriture ou est-ce que, comme vous disiez, vous avez écrit un flux continu et ça ne s'est absolument pas posé la question de cette forme en vers libre ?
Ça ne s'est absolument pas posé, en effet. Enfin oui, il y a vraiment le côté de... Enfin moi, j'ai l'impression d'écrire un long livre, en fait, généralement aussi, quoi. Donc ça veut dire que les questions que je me pose beaucoup, beaucoup de questions en amont et en fait en continu, mais du coup, ça ne va pas être par rapport à un projet en particulier, ça va être avant. Et ça, la question de la forme, c'est quelque chose que j'avais beaucoup à partir du moment, mais où du coup, j'ai commencé à écrire de la poésie, quoi, et où je commence, et comme beaucoup, peu importe le champ artistique où on commence en faisant reflet, en prenant ce qui existe déjà et en se disant, voilà, en fait, c'est ça, écrire de la poésie. Donc, et on ne comprend pas que, voilà, il y a quelque chose où il faut se l'approprier, mais il faut trouver sa propre langue, quoi. Donc, j'avais eu ce déclic-là quelques 2 ans avant d'écrire le roman. Et après, et juste en fait dans la pratique, si j'écris tous les jours, c'était aussi vraiment dans un côté de désacraliser en fait la pratique d'écriture, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup ce truc-là, et particulièrement en France, où on a et la hiérarchie, qui est quand même bien héritée de la colonisation, mais de l'écrit sur l'oral. Et ensuite, il y a vraiment aussi ce côté-là de, oui, la littérature qui serait quelque chose de, voilà, de très sacré, avec la muse qui tombe sur l'écrivain, écrivaine, etc. Et de rester à son bureau pendant 5 heures. Et, de, voilà. Et moi, ce n'est pas du tout, en fait, la manière dont j'écris. Et je ne voulais pas aussi reproduire cette relation-là. Je voulais vraiment avoir une relation à l'écriture qui soit la mienne, qui soit très, très intime aussi, quoi. Et donc, je me suis dit, OK, je vais écrire tous les jours, juste pour que je le fasse tellement, et comme quand on a quelque chose d'admiration particulièrement par rapport à quoi que ce soit, plus c'est familier, plus ce vernis-là se perd, quoi. Et il y a un côté de deuil un peu, parce qu'il y a quelque chose auquel on tient dans cette sacralisation, mais en même temps, il y a quelque chose de... C'est comme dans les relations amoureuses aussi, quoi, au bout d'un moment, c'est quand la personne devient vraiment humaine. Il y a quelque chose du coup de plus profond qui se met là, et c'est là où l'amour commence aussi vraiment, quoi. Donc même chose par rapport à l'écriture, et du coup dans tout ce qui est de la forme de vers libre, ouais, enfin moi c'est quelque chose où très vite c'est arrivé en fait, c'est ouais, plus j'ai écrit, plus l'écriture, mais surtout la poésie, c'est devenu ma langue maternelle, quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus simple maintenant de m'exprimer de cette manière-là, en vers libre, etc., et aussi avec des images qui ne sont pas forcément compréhensibles, qu'en prenant une approche très conventionnelle de la langue, quoi. Et donc, évidemment, quand j'ai écrit la parole de cette mère-là, les vers libres sont revenus, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, ouais, de l'ordre du rythme déjà, enfin qui est vraiment là, quoi, pour moi ça fait vraiment partie prenante de ma relation aussi à la langue, et je pense que c'est la même chose, c'est le cas pour tout le monde, je sais pas forcément mis en exergue, quoi, ça et la musicalité, même chose. Et il y avait toujours la question de la linéarité beaucoup. Enfin, pour moi, ça a été un peu un arrachement d'écrire un roman dans un premier temps, puisque pour moi, la poésie, ça sort de manière très naturelle. Et ce que j'aime beaucoup dans la poésie, c'est que justement, les gens n'ont pas forcément à comprendre. Mais du coup, dans ce que ça nous renvoie à nous, comme poète, poétesse, enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, quoi. C'est le truc dont on n'a pas à justifier notre existence, mais du tout. C'est-à-dire qu'on peut arriver et voilà, donner quelque chose, la personne ne comprend pas, ça a vocation à exister, donc ça existe, et c'est tout. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Et d'autant, enfin ça, dans où on nous oblige beaucoup, enfin que ce soit par le métier, que ce soit par, enfin toutes choses en fait, justement à donner des justifications de oui pourquoi tu existes, pourquoi ton existence est valable, et oui tu dois toujours ça renchérir, enfin là-dessus, et que ce soit oui dans la sphère professionnelle ou même chose que ce soit des fois dans les amitiés, dans les relations et tout ça, et du coup de pouvoir arriver comme ça et de dire voilà je dis cette chose-là, mais du coup j'existe juste parce que j'existe et c'est tout. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. C'est quelque chose à laquelle je tiens fondamentalement. Et je me suis dit, oui, quand j'écris un roman, je ne veux pas trahir un certain nombre de choses que j'avais mis en place. Je ne voulais pas les trahir, quoi. Et les vers libres, ça rentrait là-dedans. Et ça me permettait, en fait, de pas aller non plus dans quelque chose de très linéaire dans le récit. Ça me permettait, d'aller chercher ça, toutes les boucles, toutes les sinuosités, toutes les ruptures aussi, tous les moments très chaotiques dans cette parole-là et qui vont avec des intensités d'émotions aussi, tout ça, ça me permettait de le saisir, quoi. Quand pour moi, ça aurait été plus difficile de le faire en m'attachant à une forme qui était plus classique.
Rouda, en parlant de forme, de musicalité, on peut aussi se poser la question, vous venez du slam, est-ce que le slam vous a aidé, vous a presque guidé pour écrire ce premier roman, ou est-ce qu'écrire du slam, ça n'a rien à voir avec un roman ?
Alors, le slam, déjà, c'est le... On va prendre deux minutes juste pour le redéfinir. C'est pas une forme, c'est pas une manière de dire. C'est surtout un espace, une tribune d'expression plutôt libre, où des gens avec des styles d'écriture et d'oralité très différentes viennent partager des poèmes, des textes a cappella. Moi, je parlerais plutôt d'écriture courte et rythmée me concernant, parce que je suis slammer mais aussi rappeur. Et c'est à la fois une espèce d'atout que j'ai essayé de mettre au service de ma langue, et en même temps, il faut lutter contre. Parce que très souvent, malgré moi, je retournais sur des phrases en mesure, très souvent des phrases qui rimaient. Donc j'ai dû lutter aussi contre cet automatisme, cette déformation qui me poursuit. Donc c'est à la fois quelque chose que j'ai mis au service du roman, et en même temps quelque chose contre lequel j'ai essayé de lutter. Donc il y a des passages forcément rimés, parce que c'est les voix de mon personnage. Il parle très rarement dans le roman. Il y a très peu de prises de parole et ses seuls points de vue et émotions partagées. J'avais besoin de les figurer comme ça avec des textes plutôt mesurés, courts, rythmés, rimés. Et après, le reste de la narration, il est plutôt libre. Mais comme j'ai une pratique d'écriture où j'ai besoin d'entendre résonner ma langue, moi, quand je finis une page, j'ai tout de suite besoin de la lire, de me la lire à voix haute. Donc je passe peut-être pour un fou parce que je le fais dans plein d'endroits différents, mais j'ai besoin de l'entendre. Et j'ai le processus aussi inverse, c'est-à-dire d'imaginer comment la phrase sonnerait dans ma tête, ensuite de la dire à l'oral, avant de passer sur papier. Comme ça, ça a l'air chelou, mais en fait, c'est plein d'allers-retours entre l'écrit, l'oral, l'écrit, pour accoucher d'une forme qui s'imprègne un peu des deux. Et pour autant, ça reste à l'écrit, et ça reste figé à l'écrit. Du coup, moi, j'essaie un maximum de lire à voix haute des extraits de ce roman, ou d'en faire, j'en ai fait une lecture musicale, pour justement aussi lui rendre hommage, entre guillemets, en le rendant vivant à l'oral. Ça va, j'ai pas été trop compliqué, on a compris ?
Ouais. On parlait de la forme pour trouver les mots. Vous, vos mots, ils sont forcément politiques. Et Rouda, par exemple, l'idée première de Ben, quand il veut s'emparer les mots, se redéfinir les mots, c'est de s'emparer de l'espace public, de la tribune, du forum, et ça passe par les médias. Pourquoi s'emparer de l'espace médiatique pour redéfinir les mots ?
Pour une raison très simple, c'est que dans nos quartiers, en fait, on est souvent dépossédé des mots et de leur sens. L'obsession de mon personnage, qui est un peu la mienne aussi, c'est de reprendre le contrôle du champ lexical et de nommer les choses telles qu'elles sont. Une bavure policière n'est jamais un accident. Une bavure policière, c'est un meurtre commis par un représentant des forces de l'ordre sur un citoyen ou une citoyenne. Un émeutier n'est pas un casseur. Un émeutier, c'est avant tout un révolté. Et plutôt que de renvoyer les classes populaires et les habitantes et les habitants des quartiers dans des cases, de leur priver... de leur prendre leurs mots, en fait, de les déposséder du sens des mots, et Ben, en fait, son espoir et sa lutte et sa quête personnelle, intime, c'est d'aller récupérer les mots, de leur redonner du sens, de leur redonner de la force et tout simplement d'ouvrir un dictionnaire et de lire des définitions et de comprendre de quoi on parle, tout simplement. Donc finalement, sa quête, elle est très simple. Et le fait de s'emparer de l'espace public, bah, c'est un peu tout ce qui nous reste, vu que nos voix, elles sont dures à faire entendre, que c'est des luttes complexes et qui s'inscrivent dans le temps. Et ben, c'est s'emparer aussi des médias nouveaux. Voilà, il essaie de passer par les réseaux aussi. Il essaye d'aller là où la parole se partage. Donc tous ces espaces qui sont à prendre et qui sont à tous et à toutes.
Qu'est-ce que ça symbolique, cet espace médiatique? On parle notamment des journaux télé, de la radio, de ces chaînes d'information en continu. On diffuse des mots, vous parlez de bavures policières. Qu'est-ce que c'est le symbole, justement, de cet espace-là?
C'est le symbole de l'appauvrissement de la pensée, je trouve, du raccourcissement de la pensée. Il y a énormément de sujets qui nous traversent en ce moment, des sujets très politiques, pour lesquels il faudrait prendre vraiment beaucoup de temps. Installer du silence, installer de la réflexion, parler d'histoire, parler de causes et pas seulement de conséquences. Et malheureusement, notre espace médiatique actuel a besoin de raccourcis et d'un temps extrêmement réduit pour parler de sujets ultra complexes. Donc moi, ça me navre énormément, mais il faut faire avec. Et peut-être que si on avait plus accès à ces pupitres-là, à ces tribunes-là, et qu'on s'installait et qu'on prenait le temps de discuter, comme on est en train de le faire maintenant, on en apprendrait plus déjà sur ces sujets-là, on en apprendrait plus sur nous-mêmes, on en apprendrait plus sur les autres. Moi, j'aimerais bien, en fait, que pour résoudre les guerres, on envoie le meilleur poète de chaque pays, et que les deux s'affrontent dans une joute oratoire devant un public, et celui qui gagne, il a gagné la guerre. Et puis voilà, on a fini. Mais ça, c'est pas l'utopie de mon personnage, c'est la mienne. Voilà, et donc il y a des espaces dont il faut reprendre le contrôle. Et ces espaces médiatiques, c'est très compliqué, mais il va falloir à un moment ou à un autre qu'on essaie de s'en emparer.
Sarah, on parlait de la diffusion de la parole. Vous, dans 2 minutes à minuit, c'est les mots de la mère, c'est des mots qui sont intimes, c'est une histoire familiale, c'est sur la relation à sa fille, son addiction, mais ces mots qui sont intimes, ils sont surtout les mots d'un monde dont on est écarté. Est-ce que pour vous, cet intime devient collectif et donc est politique ?
Bien sûr, c'est surtout dans les mouvements féministes pour le coup. Voilà, on a eu beaucoup cette question-là de est-ce que l'intime est politique ? Et oui, on est obligé de dire que l'intime est politique dans un premier temps pour justement voir ces rapports de domination-là, du coup, qui sont surtout dans la sphère privée. Comment est-ce qu'on fait pour les analyser ? Et donc oui, on est obligé de se pencher sur l'intime, du coup, et se rendre compte que oui, l'intime est politique. Et oui, et de manière plus large, mais c'est pas. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi, même tu vois dans ce panel-là, que du coup nous on se retrouve à parler de ça, que en quoi nos livres sont politiques. Mais pour moi, tous les livres, du coup, le sont. Après, est-ce que l'intention de l'écrivain ou l'écrivaine est révélée ou non ? Ça, c'est une autre question. Mais par contre, il y a forcément, et nous on le voit bien aussi dans le choix de à quel personnage on donne la parole, quelles sont les visions de ces personnages-là, qu'est-ce qu'on donne ensuite comme outil aussi au lecteur, à la lectrice, pour qu'il ou elle puisse se faire des jugements sur ce personnage. Il y a tout quelque chose, oui, que la visée morale soit donnée ou non, et même qu'elle soit sue, parce qu'il peut y avoir ça aussi, on peut très bien, de manière complètement inconsciente, se dire, bon, ben, moi, je ne comprends pas, enfin, en quoi mon roman est politique, j'essaie de donner quelque chose de neutre, etc. Toute vision sur la vie l'est forcément, et juste dans ce simple fait, et c'est quelque chose, c'est une grande fiction aussi, de cette fiction de l'individu là, où on serait forcément, on pourrait être une cellule qui est isolée, on est lié en fait de toute manière, quoi. C'est-à-dire que oui, moi ce que je dis engage toutes les personnes à côté, qu'elles soient d'accord, qu'elles ne soient pas d'accord. Et c'est pas seulement du coup ce que je dis, mais c'est aussi mes actions, et on est forcément dans une société, les uns les unes avec les autres. Donc toutes ces choses-là font que... Pour moi, ce côté-là, en fait, social dans le sens de relier, est nécessairement là, en fait. Et particulièrement, oui, un livre qui est une parole publique, dans tous les cas, qui vient en plus avoir... On est quand même dans un endroit très particulier aussi, où nous, on parle de notre solitude à nous, mais du coup, avec cette immense liberté-là, où on peut dire vraiment tout ce qu'on veut, et on va rencontrer les gens vraiment dans leur solitude à eux, à elles aussi, quoi. Et donc, dans cette relation-là, très intime, et qui en même temps est publique, c'est-à-dire que tout d'un coup aussi, ça, on devient écrivain, écrivaine, ça justifie le fait que, oui, on puisse venir sur cette scène-là et qu'il y ait autant de personnes qui viennent nous écouter. Pour moi, ça, même chose, ça engage quelque chose de l'ordre de la responsabilité, mais oui, qui n'est pas seulement une responsabilité artistique, entre guillemets. Et il faudrait interroger ça aussi. Qu'est-ce que c'est cette responsabilité artistique? Pourquoi, du coup, on donne autant de poids aux paroles des artistes, quoi? Et qu'il y a un poids de double mesure? Parce que ça, en même temps, on leur donne le poids voilà, de pouvoir les écouter et tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a des prises de position qui sont politiques, qui sont vraiment données et seulement comme telles, là, souvent, il y a une remise en question. Et on le voit aussi beaucoup, notamment avec les footballeurs, par exemple. On va les renvoyer à « non, non, mais attends, toi, tu fais du sport, donc tu n'es pas censé avoir une parole politique. » Et donc, il y a toujours cette double, ouais, ce double poids, cette double mesure, quoi. Et dans le même temps, enfin oui, nous, on est toutes juste des êtres humains, des êtres humaines, quoi. Donc, évidemment, oui, on a un engagement politique, mais pour moi, un engagement politique qui est juste un engagement dans l'existence, quoi. Et sinon, ou alors, enfin, ça, s'il y a vraiment un isolement qui est total, total, et oui, je vais aller dans la montagne et je ne parle absolument à personne. Et même là, enfin, est-ce que, du coup, moi, j'ai pas directement un impact politique, mais est-ce que le fait que je me sois retirée, le fait que je me sois isolée, qu'est-ce que ça dit, ça, politiquement aussi? Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là, pour le coup, je trouve qu'elles sont intéressantes à poser et qui ne sont pas des questions auxquelles j'ai forcément des réponses pour tout, mais je pense que oui, ça devrait être quelque chose qui est interrogé assez généralement. Et je prends l'exemple de toute la polémique qu'il y a eu avec Sylvain Tesson là en début d'année, et toute cette enquête qui a été faite sur l'extrême droite, ce qui a été qualifié de l'extrême droite littéraire, quoi. Mais où des personnes, ça, comme Sylvain Tesson, comme Houellebecq, sont pas des personnes qui vont dire oui, nous, on est des écrivains politisés, qui sont pas perçus comme tels non plus. Mais là, je trouve que c'est intéressant aussi de, moi, je suis perçue comme politisée, par exemple, parce que du coup, la manière dont j'habite politiquement toutes mes activités, mon existence aussi, est beaucoup plus justement en décalage avec la norme que d'autres personnes comme Sylvain Tesson et Houellebecq. Et donc, comme ils donnent des visions qui rejoignent les visions plus ou moins de la norme, tout en ayant un peu de subversif, quoi, là, du coup, oui, on va pouvoir dire juste simplement c'est des écrivains, et juste ils donnent une vision sur le monde. Mais il y a beaucoup de choses qui sont données. Il suffit d'avoir un peu d'attention. Et ça ne veut pas dire, pour le coup, qu'il ne faut pas les lire. Enfin, ça, c'est l'autre chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça aussi, quoi. Les gens vont se dire, oui, du coup, si c'est politique, ça veut dire que je ne pourrais pas lire telle chose ou telle chose. Du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant, au contraire. Et moi, je ne pourrais jamais parler avec une personne d'extrême droite, vraiment avoir un dialogue où c'est très compliqué, parce que je vais m'énerver très vite et c'est difficile. Enfin, c'est de la violence aussi, beaucoup. Par contre, oui, lire un livre, ça, c'est possible. Et donc, ça, c'est intéressant pour le coup, parce que moi, j'ai besoin de comprendre aussi ces gens-là, quoi. Donc, ouais, enfin, toutes ces choses, toutes ces questions-là, amenées de cette manière-là, avec cette complexité-là, pour moi, c'est de ça que ça ressort, l'articulation en littérature politique. Et pas toutes les confusions qui sont menées après. Je trouve que oui, c'est vraiment beaucoup plus intéressant de se le poser aussi en se disant, oui, qui est-ce qu'on qualifie de politique, qui est-ce qu'on ne qualifie pas de politique, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de ne pas vouloir se revendiquer comme tel aussi, quoi. Pourquoi il y a autant une séparation, et notamment en France, entre l'art, la culture et la sphère politique, ce qui n'est pas donné non plus, quoi. Beaucoup dans d'autres cultures, les artistes ont aussi des rôles sociaux, ont aussi des rôles politiques, pour le coup. Enfin, c'est... Non, mais oui, à partir du moment où vraiment ça, on a une parole publique qui demande à ce que les gens nous écoutent, oui, est-ce qu'on n'a pas des responsabilités derrière, quoi? Et si c'est des responsabilités collectives, dans quelle mesure ce n'est pas des responsabilités politiques aussi?
Vos deux textes explorent cet aspect d'écrire pour l'autre et justement d'écrire avec l'autre. Et Rouda, vous, Ben, il est travailleur social à un moment et il travaille dans des foyers sociaux. Il va rencontrer un homme, c'est un moment qui m'a marqué, Monsieur Sadi, un Algérien qui, si je me souviens bien, a environ 70 ans, qui a travaillé toute sa vie et qui semble être assez résilient. Et vous écrivez notamment, ça me met en colère de comprendre qu'il n'en a pas. Il n'a pas une once de révolte au fond de ses yeux verts. Je ne peux pas le bousculer, alors je proteste à sa place, contre la France, contre nos services sociaux, contre les hommes politiques. Monsieur Sadi, il semble résilient face à la fracture sociale, tandis que Ben, lui, il souhaite changer le monde. Et est-ce que vous, il y avait cette idée d'un engagement pour celles et ceux qui ne peuvent pas, ne peuvent plus finalement se révolter?
Non. Non, parce que faut savoir rester à sa place. Là, on est dans une œuvre de fiction, c'est-à-dire je témoigne de choses que j'ai peut-être vécues ou pas, et c'est pas important de savoir si je les ai vécues ou pas. Je pense pas qu'un auteur est un porte-parole. Je pense qu'un auteur, il est là justement pour s'imprégner du réel et essayer de le partager sous une autre forme, de l'embellir, de le politiser, de le mettre à distance en tout cas, pour justement nos existences personnelles soient acceptables et soient le plus douces possible. Sur Monsieur Sadi, en fait, Monsieur Sadi, il a décidé de s'occuper des problèmes dont il pouvait s'occuper et que des problèmes qu'il pouvait résoudre. Et en fait, c'est juste sur le chemin de Ben, il y a plein de personnages, plein de rencontres très différentes et qui vont lui permettre en fait de trouver sa propre voie, son propre chemin. Et ce monsieur Sadi, il est juste là pour lui montrer en fait que la colère, c'est un sentiment à combattre, mais qu'on peut lui donner une autre forme. Et voilà, là, c'est juste la pirouette de l'auteur. Rien de plus, Alexandre, j'en suis désolé.
Il y a aussi quelque chose qui m'a interrogé, c'est que Ben, il est parti de la brousse. Il est parti vivre à Paris, il a fait des études d'histoire, il vit à Belleville avec sa compagne qui travaille dans l'humanitaire. On peut presque dire que c'est un transfuge, finalement, que ça soit géographique ou social. Et est-ce qu'on peut écrire, justement, est-ce qu'on peut se révolter pour la brousse en n'étant plus à la brousse?
Bien sûr. Alors moi, je suis obsédé, comme mon personnage, par la notion d'espace et la notion de territoire. Là, en l'occurrence, c'est des choses dont je peux parler sans filtre, parce que c'est un peu ma trajectoire. Moi, je suis issu d'un quartier. J'ai toujours fantasmé Paris. Voilà, Paris, pour moi, c'était un truc de fou. Et c'était une vraie expédition, une vraie aventure d'aller à Paris, comme mon personnage. Aller à Paris, c'était une organisation. Il y a une histoire vraiment de mobilité. Tu ne vas pas juste à Paris. Tu vas à Paris, mais tu réfléchis déjà comment tu vas rentrer. Donc, tu vois, il y a déjà cette notion d'aller-retour. Après, mon personnage, Ben, n'est pas un transfuge de classe. Je pense qu'on peut avoir un point de vue sur un autre territoire sans lui appartenir. Et ce serait vraiment nécessaire, justement, qu'on puisse toutes et tous prendre parti pour des espaces auxquels on n'appartient pas. Moi, je trouve, par exemple, pour avoir pas mal sillonné la France ces dernières années, qu'il y a plein de points communs entre les quartiers populaires et le monde rural. Il y a la question de la stigmatisation, du cliché qu'on peut porter sur les habitantes et les habitants de ces espaces-là. Il y a la question de la mobilité, justement. Donc moi, les questions de mobilité en tant que banlieusard pour aller à Paris, je pense que dans une région comme Chambéry, elle doit se poser aussi. Quand tu habites dans un petit village et que tu dois aller à Chambéry, tu dois aussi te poser la question, comment je vais revenir? Donc il y a cette histoire-là. Moi, en plus, je n'avais pas de mobilette. Donc, voilà. Tu vois, c'était que des transports en commun. Et ensuite, ce qu'il y a aussi un point commun, je trouve, c'est la question de la solitude. Comment on arrive à se retrouver seul, entouré des autres. Donc, toutes ces questions-là, en fait, ce n'est pas des questions qu'on adresse à un transfuge de classe, puisque, à mon avis, elles résonnent pour toutes les classes, à condition, justement, de s'intéresser aux territoires sur lesquels on se développe, on grandit et on s'interroge.
Sarah, vous, votre texte, il explore beaucoup de thématiques, il traverse le temps et les classes sociales. Et vous écrivez notamment, un moment, je vous cite, on est au début du roman, « Ma douce, le monde repose sur les mains des éboueurs et leur dos tendu, et les vallons sur le regard de tous les humbles qui portent le monde sans dire un mot. » Aussi ceux qui portent le monde sur notre dos. Est-ce que, aussi justement, vous, à travers cette mère, vous aviez l'idée, je ne vais peut-être pas utiliser le mot porte-parole du coup, mais témoin de celles et ceux qui portent notre quotidien, les invisibles dont on ne parle pas forcément?
Oui, complètement. Ben, ça rejoint un peu ce que je disais de pourquoi j'ai choisi, du coup, mais je suis allée vers la parole de cette mère-là. Mais oui, complètement, il y avait cette idée-là de... des personnes qui sont silencieuses. Bon, je me pose beaucoup la question du silence en ce moment, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que souvent, oui, on se dit ça, c'est les personnes qui parlent pas. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, pour le coup. Enfin, c'est des personnes qui parlent, mais qui sont pas forcément entendues non plus, dont la parole est pas forcément relayée. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi. Mais oui, évidemment, enfin, il y avait l'idée de pouvoir trouver, en fait... toutes les personnes, mais qui sont dans les angles morts, en fait. Moi, maintenant, c'est comme ça que je le dirais plus, et qui sont structurantes, en fait, dans cette société. Ce que je disais là aussi, qui disent, en fait, énormément de la société française, mais qui ne sont jamais... dont le caractère structurant n'est jamais montré, quoi. Et non seulement ça, mais ensuite, quand il est montré, du coup, forcément stigmatisé, forcément, ou le côté de misérabilisme, ou ce côté-là de on les montre, mais comme si ça appartenait dans un autre espace-temps qui n'est pas complètement le nôtre. Et justement, donc, on peut avoir le côté choqué, et le côté de la pitié aussi qui vient. Mais toutes ces choses-là, que ce soit le fait de la surprise... ou la pitié, pour moi, c'est vraiment des sentiments qui sont assez creux, en fait. Parce que la pitié, ça permet vraiment... c'est plus que la mise à distance, ça permet de séparer, en fait, complètement le fait qu'il y ait une relation d'une personne à une autre. et la surprise, et on le voit beaucoup, bah, notamment avec les violences policières, quoi. Enfin, ce côté-là de à chaque fois ça arrive, et la plupart des gens sont en se disant oh là là, mais comment c'est possible en France en 2024, etc. Alors que si on voit, enfin, c'est des continuums en fait. Et les personnes, pour le coup, tous les collectifs militants qui se battent, du coup, qui luttent au quotidien pour rendre justice aux personnes qui sont victimes de violences policières, le font sur des dizaines d'années et des vingtaines d'années, ont des héritages, et on a ça, non mais oui, depuis voilà, 70 ans au moins, quoi. Donc, tout ce côté-là, pouvoir montrer, et d'où le fait que, oui, cette parole-là, elle engage l'existence de la mère, mais elle engage toute cette filiation-là. Elle sait qu'elle hérite, en fait, de quelque chose qui est de 4 siècles de domination, et peut-être plus encore de domination, et elle sait très bien que, oui, il y a quelque chose où c'est pas seulement elle qu'elle porte, du coup, mais toutes les personnes qui la traversent aussi, quoi. Et même chose dans ce que tu disais, j'ai beaucoup aimé le côté de, oui, pouvoir s'engager dans des territoires qui sont pas les nôtres, non plus, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, et que, par exemple, des mots, dans le réinvestissement des mots comme la solidarité et la réciprocité, c'est vraiment des mots à réinvestir, à redéfinir aussi, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des mots qui ont été désubstantialisés. Les gens, oui, ne se rendent pas compte. En fait, moi, je pense que ça coûte énormément d'être solidaire, en fait. Et que juste ce côté-là de se dire, oui, ça, je suis empathique pendant 30 minutes et puis après, je passe à autre chose, ça ne peut pas être ça. Et ça veut dire aussi que, oui, des territoires qui ne sont pas les nôtres, des existences qui ne sont pas les nôtres, il faut qu'on puisse avoir ce déplacement-là, quoi. Et en l'occurrence, cette mère-là, alors même qu'elle porte déjà tous les fardeaux qu'elle porte, elle n'est pas éboueur, mais elle va parler des éboueurs, elle va dire, voilà, ça, c'est les personnes qui portent le monde sans dire un mot, quoi. Et moi, je suis toujours frappée pour le coup de... Et c'est assez triste, mais les personnes qui n'ont... C'est beaucoup plus difficile, en fait, d'être en empathie avec la souffrance quand on en a très peu vécu. Et souvent, quand on en a très peu vécu, justement, on va essayer de se mettre à distance beaucoup. Ça veut dire ça, on peut avoir un peu de pitié, on peut être un peu dans la charité, mais c'est très difficile de s'engager vraiment, quoi. Des personnes qui ont souffert, vous leur partagez, vous, vos souffrances, elles vont pouvoir le porter, mais aussi parce qu'elles savent que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup quelque chose de la peur aussi, quoi. Mais quand on sait ça, et après, au bout d'un moment aussi, il y a une question d'âge, il y a plein de choses. Mais je pense que oui, quand on se dit... Enfin, ouais, qu'il y a c'est une pratique de courage, quoi. Enfin, le courage, c'est un muscle aussi. Mais de se dire, OK, enfin, dans la vie, il y a toute cette part-là de souffrance, de douleur, même si ce n'est pas la mienne qui va être celle des autres aussi. Et en fait, je suis assez solide pour pouvoir le porter avec une autre personne. Et ça ne veut pas dire que je prends son fardeau, moi, je le prends complètement sur mon dos. Ça veut juste dire que je peux lui mettre un bras au moins un petit peu sur l'épaule pour qu'elle puisse se reposer aussi, quoi. Et je pense que beaucoup des souffrances, mais qu'on vit généralement, normalement, sont des choses qui sont à vivre de manière communautaire, de manière collective, quoi. Et je crois que c'est à toi que je parlais du deuil, voilà, en te disant, moi, je pense que vraiment, le deuil, normalement, c'est une affaire qui doit être communautaire, collective, quoi. Et dans beaucoup de cultures du Sud, c'est comme ça qu'on le vit aussi. Et même chose, c'est quelque chose dont on parlait. Donc, on se rejoint, on mange, on chante, on danse et on reste ensemble pendant un mois, quoi. Et je pense que oui, généralement, comme être humain, en fait, on a besoin. Et ça permet, en fait, de faire transiter rien que dans le corps, quoi. Cette tristesse-là qui serait trop étouffante sinon, hop, elle est déchargée, elle est apaisée dans le contact avec d'autres personnes. Donc, je ne sais plus quelle était la question initialement.
Vous y avez répondu. Voilà. Pour revenir un petit peu sur parler pour les autres, avec les mots des autres et dire les autres, vos deux romans, ils se rejoignent sur cette idée de la transmission générationnelle. Par exemple, Rouda, votre roman, c'est un peu le portrait d'une époque longue. On commence dans les années 90, vous le dites, Ben avait 10 ans à la mort de Malik Houssekine, mais a vu les violences policières qui ont traversé le temps, notamment Zied, Bena et Bouna Traoré. Est-ce que vous vouliez justement faire le relais de ces épisodes de violences policières du passé pour montrer qu'encore aujourd'hui, ils ont des conséquences sur nos mouvements actuels et qui questionnent encore aujourd'hui?
Alors, déjà, j'aimerais préciser que mon roman est surtout une histoire d'amour. Voilà, que ce n'est pas que axé autour des violences policières. Et je m'intéresse pas seulement à ces violences-là. Je pense que les violences systémiques, elles sont multiples. Y a effectivement les violences les plus palpables, policières, les violences carcérales également. Mais dans les quartiers populaires, la violence, elle a plein d'autres formes, d'autres visages. Elle n'est pas que physique ou verbale. La violence de la solitude, la violence de la stigmatisation, la violence du chômage sont aussi des formes que j'aborde, je crois, dans ce roman. Et je ne voulais pas me cantonner justement aussi à ce sujet-là. Ce n'est pas un roman sur les violences policières. C'est un roman sur les différentes formes de violence, et pas seulement dans nos quartiers. Et c'est pour ça que je voulais faire un récit très chronologique. Donc effectivement, on part des années 90, on arrive jusqu'à un demain qui est peut-être aujourd'hui ou qui était hier. Il n'est pas vraiment datable, mais j'essaye de mettre des grands jalons, des grands repères historiques. Donc, je parle évidemment du World Trade Center, je parle de l'accession de Le Pen au second tour en 2002. Et en fait, j'essaye de trouver des grands marqueurs pour que la lectrice et le lecteur puissent éventuellement se reconnaître émotionnellement dans ces moments-là. Je crois qu'on est tous capables ici de savoir exactement avec qui on était, ce qu'on faisait, où on était le 11 septembre 2001. Voilà, on a tous émotionnellement quelque chose qui est visuel ou sensitif. Je pense qu'on sait tous, si on l'a vécu, ce qu'on était, ce qu'on faisait, avec qui on était le 21 avril 2002. Et voilà, et en fait, c'est aussi des ressorts de structure dans la narration qui permettent de cheminer comme ça dans le temps et de témoigner un peu des grands bouleversements du monde, des grands bouleversements de nos sociétés, et pas seulement des violences policières. Voilà, j'aimerais surtout pas qu'on réduise mon roman à un roman sur les violences policières, ou encore pire, un roman de banlieue. Là, moi, je lutte depuis plus d'un an et demi. Ça n'arrive pas tout le temps, heureusement, pour montrer en fait que la banlieue, c'est un personnage et que c'est pas un roman de banlieusard.
Oui, oui.
Voilà, ça, c'est très, très important. Et dès que j'ai l'occasion de le dire, forcément, j'aime le rappeler.
Merci de l'avoir rappelé. Et désolé.
Ah non, et c'était super.
Sarah, vous, dans cette longue lettre, la mère, elle parle des autres, d'îles, d'elles qu'on ne rencontre pas dans le texte, mais qu'on imagine, sont des personnages de douleur, des victimes de l'oppression. Et vous écrivez cette phrase, « Ma douce, si tu savais toutes les vies perdues pour que tu naisses ». Qui sont ces vies perdues ?
Je pense que ça va vraiment avec ce côté-là de, oui, d'héritage transgénérationnel, quoi. Et... enfin, beaucoup de vie et du coup de ça, d'existence minorisée, etc., cette trajectoire de survie. Moi, je m'interroge beaucoup aussi de ça, de à qui a accès à la vie vraiment, mais la vie pleine, quoi. C'est-à-dire que ça, avec des conditions matérielles qui permettent de l'avoir. On parle beaucoup de questions d'argent, mais l'argent, c'est le temps en réalité, c'est un certain confort dans le corps aussi, quoi. C'est des perspectives d'avenir. Donc, oui, enfin, enlever le côté très. Pas la surface, mais voir en fait tout ce que ça comporte, l'argent derrière. Et. Même quand on n'est pas dans ce côté-là vraiment de trajectoire qui sont marquées par la survie de manière matérielle, tout ce qui est de traumatisme, même chose en fait, ça te plonge dans un mode survie aussi. Ça veut dire que oui, tu as l'impression toi que tu dois justement ça passer le jour, etc. Et que tu dois aussi atteindre un certain endroit qui va être un endroit de guérison, qui va être un endroit de bonheur. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose dont on a parlé du coup hier. Mais toute cette idée-là aussi que la vie du coup serait reliée à... une sorte de bulle dorée qui est la bulle capitaliste, voilà, de le bonheur qui passe avec ça un certain nombre de conditions matérielles et qui devrait aussi être très égal. Enfin, c'est-à-dire ça que si en fait on a une journée où on est un peu triste ou alors il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ou alors ça on a une souffrance, on a un deuil, ou on est dans une séparation ou toute autre chose où on a un souci matériel d'une manière ou d'une autre, là c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'on est en deçà de ce qu'on est censé atteindre et ça veut dire qu'on est en échec, quoi. Ça c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions parce que pour le coup c'est vraiment partagé de manière large. Enfin, oui, même des personnes ça qui sont des personnes vraiment de, on pourrait dire privilégiées de plein de manières vont avoir aussi cette chose-là de mise en échec si toute la vie n'est pas vraiment, tous les curseurs ne sont pas placés au plus haut niveau dans tous les endroits. Et pour le coup, ce qui est de... Tu peux me rappeler la question ?
Alors, la question, je vous disais justement que... j'ai même oublié ma question, moi, voilà. C'est parfait. Que, c'est, je vous disais qui sont ces vies perdues, justement, après
Mali. Oui,
c'est
ça, exactement. Exactement. Ben en fait, les vies perdues, du coup, oui, c'est dans ces trajectoires-là de survie. C'est comme si, dans le générationnel, donc on va avoir les parents, les grands-parents. Moi, c'est beaucoup quelque chose aussi qui a marqué mon existence à moi, quoi. C'est-à-dire que ce soit mes grands-parents, que ce soit mes parents, il y avait toujours quelque chose de l'ordre de nous, on a été dans la survie jusque dans une certaine mesure et on ne pourra pas aller plus loin. Et donc, ce sera la génération suivante qui va vivre vraiment, quoi. Et pour moi, les vies perdues, c'est ça. Et c'est beaucoup des existences de mères, justement, c'est beaucoup des existences de femmes, mais ces existences de sacrifice vraiment complètement, quoi, pour les enfants, pour le mari, pour qu'on puisse avoir des conditions matérielles qui soient un minimum OK, pour que les enfants puissent accéder ça à des possibilités d'avenir, etc. Pour moi, ça, c'est les vies perdues, quoi. Qu'ils ne sont pas complètement non plus. Enfin, c'est plus complexe que ça. Mais il y a quand même quelque chose de ces existences intimes-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'auraient pu être ces personnes dans d'autres contextes? Quels étaient leurs rêves, elles particulièrement, quoi? Tout ça a été sacrifié pour que les générations suivantes, elles, puissent vivre, quoi. Et donc, toutes les vies perdues pour que tu puisses naître, c'est la mère qui sait, encore une fois, qui est dans ce moment très lucide et qui sait que pas seulement elle, mais dans ses grands-parents, dans ses arrière-grands-parents, dans ses arrière-arrière-grands-parents, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie, en fait, entièrement pour que sa fille à elle, même si vous ne pouvez même pas l'imaginer, puisse naître, quoi, et puisse vivre, puisse sortir de ce cycle-là de la survie.
Dans vos deux textes, il y a ce thème justement aussi de retourner les mots, les comprendre et les utiliser. Rouda, pour faire naître l'embrasement, la révolution, il faut être combatif et il faut maîtriser le débat, connaître les mots, la manière de les utiliser. Et à un moment dans votre livre, vous mettez en avant un atelier d'écriture dans une prison où c'est une personne qui fait du slam avec une casquette qui intervient et qui explique, qui raconte cet atelier d'écriture. Est-ce que vous militez, vous, pour replacer ces mots dans les espaces où on ne les place pas forcément?
Tu veux dire dans mon quotidien, dans ma pratique?
Dans votre quotidien, dans votre écriture?
Ouais. Alors déjà sur ce passage, c'est important. Ben, pour moi, c'est un personnage mosaïque. C'est-à-dire qu'il emprunte un petit peu à mon histoire personnelle, à ma mémoire. Mais il est aussi imprégné de plein d'histoires qu'il n'a pas vécues, de plein d'histoires que moi j'ai fantasmées, ou j'ai entendues, ou que j'aurais aimé vivre. Donc là, je mélange un petit peu et c'est le seul moment, et là encore, c'est le petit kiff de l'écrivain. Parce que moi, j'ai fait un roman en me disant, ça sera peut-être le dernier, donc tu vas tout mettre dedans. Et j'avais envie de me mettre moi-même en scène à l'intérieur. Et voilà, et en plus, je m'auto-mutile. Voilà, et je trouvais ça marrant, voilà, juste de faire cette petite pirouette-là. Après, oui, dans ma pratique, moi, je fais beaucoup d'actions culturelles, où j'essaye de partager un maximum des techniques, des envies aussi d'écriture, de montrer que c'est ludique, plaisant, joyeux d'écrire et de partager des écritures. Donc oui, j'interviens un peu partout en France, beaucoup en milieu carcéral, effectivement. Donc oui, c'est une petite pirouette et un rappel de quotidien.
Petite mise en abîme de l'écrivain dans votre propre livre.
Ouais.
Sarah, vous, votre roman aussi, j'ai l'impression que j'ai été très sombre à un moment, mais c'est pas un roman sombre, c'est aussi un roman d'amour extrêmement intense. On en parlait aussi à un moment hier. Il y a cette thématique du crack et de l'addiction au crack, mais vous n'en faites pas le thème du livre. C'est un motif, et votre texte revient à un moment sur la douceur, puisqu'il s'ouvre par « Ma douce, je t'aime » et il termine par « Ma douce, je t'aime ». Est-ce qu'il y avait la volonté aussi de remettre de la douceur dans l'obscurité?
Oui, bah ça c'est le, enfin déjà juste par rapport au motif, oui, du crack. En effet, c'est là on parle de motif parce que c'est littéraire, mais en fait de façon humaine, les personnes qui sont addictes au crack ou les personnes qui sont addictes généralement, c'est pas une identité en fait d'être addict, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc même dans ce truc là, oui, le rapport à la personne. Moi, si j'écrivais, cette mère là du coup qui était addict, ça n'avait aucun sens. J'étais déjà dans une certaine forme de déshumanisation si j'écrivais comme si être addict au crack, c'était quelque chose en soi qui voulait dire quelque chose de sa personne. C'est faux. C'est forcément, oui, quelque chose qui vient évidemment alimenter et qui vient pénétrer un certain nombre de choses, mais ça ne peut pas être sa personne. Et là, en plus, où je suis vraiment dans un rapport intime, où elle donne aussi tout ce qu'elle est, ça n'avait aucun sens de le structurer de cette manière-là, quoi. Mais ensuite, dans la formulation, c'est pas tant de mettre dans la douceur, dans l'obscurité, c'est vraiment, ça rejoint un peu ce que je disais avant par rapport à cette séparation qui est censée être étanche entre d'un côté le bonheur et des émotions qui sont qualifiées de positives, et même chose pour tout ce à quoi ces émotions-là sont rattachées, donc tout le côté positif de la vie aussi. Et de l'autre côté, toute la colère, la tristesse, la souffrance et toutes les choses qui sont rattachées à ça aussi. La vie, mais c'est pas seulement pour des personnes qui ont des existences qui sont jalonnées par la souffrance. Mais en fait, c'est ça, c'est que toutes les personnes ont des existences qui sont jalonnées par la souffrance d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que parce que tout le monde fait le deuil de ses parents, quoi, dans une vie. à part certaines personnes, mais bon, la plupart des gens ont au moins cette expérience-là. Si c'est pas ça, on peut le rattacher à d'autres choses. Donc comment ça se fait, oui, qu'il y a cette vision-là de, oui, une vie humaine qui serait réussie seulement si on est dans les émotions de joie et de douceur et de tendresse. Et on le sait aussi, enfin, aimer une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit aimer une personne dans sa famille, que ce soit les amis, que ce soit des amoureux, des amoureuses, c'est jamais seulement de la joie non plus, quoi. Enfin, et rien que parce que si la personne, ça, la personne qu'on aime, elle est en deuil, elle traverse une période de souffrance, est-ce que ce serait juste, nous, d'être joyeux, joyeuse? Est-ce qu'on va se dire, du coup, cette relation-là n'est pas... Il y a quelque chose qui cloche? Non. Enfin, on va forcément être triste avec elle, quoi. Et je pense qu'il y a il y a une espèce d'amputation, en fait, à partir du moment où on s'est dit toutes ces émotions-là sont problématiques, on doit les mettre absolument de côté. Et dans le fait de. Et même, ça va aussi dans la manière ensuite dont on fait une espèce de partition de la violence, justement, quoi. Et dans tous ces trucs-là, de ce que tu disais entre révolte ou émeutier ou les choses comme ça, et tout ce qui est de la colère, elle va être forcément qualifiée comme quelque chose de l'ordre de la violence. Je pense que c'est aussi ça, parce qu'on a eu cette partition-là, et que de se dire, oui, toutes ces émotions négatives, entre guillemets, là, ne sont pas censées exister ou sont quelque chose de l'ordre du défaut, soit d'un échec, soit de quelque chose de problématique qui ne devrait pas être là, quoi. Et c'est mêlé, en fait. Tout ça est mêlé. Et particulièrement ça, quand on a des... Et on le voit aussi, c'est difficile. Moi, je pense qu'on n'a pas appris à aimer jusqu'à maintenant. On n'apprend pas à aimer non plus, quoi. Moi, je lis beaucoup et je me base beaucoup sur une autrice afroféministe qui s'appelle Bell Hooks, qui a beaucoup réfléchi ça sur l'amour, qu'est-ce que ça engage, quoi. Et elle dit, l'amour, c'est pas seulement un sentiment, l'amour, c'est un verbe. Et elle s'attache ensuite à définir quels seraient en fait tous les piliers de l'amour. Comment on peut apprendre à s'aimer, en fait, vraiment? Et elle dit ça parce qu'elle dit, oui, comment ça se fait, ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent qu'elles aiment et qui vont dire, oui, je t'aime, ou voilà, et que ce soit ça à des enfants, que ce soit à des amis, etc. Et par contre, dans la transcription ensuite, dans la traduction de cet amour-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ressort de l'ordre de la violence, du coup, ou qui n'arrive pas à se... Enfin, la personne en face ne se sent pas aimée, quoi. Et je pense que, oui, ça, c'est, pour moi, ça, c'est une grande problématique qu'on a aussi maintenant. Et c'était aussi cet écart-là, pour le coup, que je voulais montrer, quoi. Et qui est là, très présent, et même chose, enfin... Pas seulement dans des existences qui sont beaucoup jalonnées par la souffrance. Moi, je le vois beaucoup dans toutes sortes d'existences, de toutes sortes de personnes, pour le coup. C'est quelque chose qui revient. Et de montrer comme tout ça est... Non, mais oui, tout ça est mêlé. Et donc, ouais, je pourrais jamais... Enfin, on ne peut pas parler, pour moi, d'obscurité sans parler de lumière. On ne peut pas parler de tristesse sans parler de joie. On ne peut pas parler de deuil sans parler ça de chant aussi, quoi. Enfin, tout ça, c'est quelque chose, non, mais oui, qui est circulaire, en fait. Tout s'alimente, quoi. Et la frontière entre la mort et la vie, même chose, elle est pas, pour moi, elle n'est pas étanche, elle est poreuse. Il y a toujours, et rien que cette relation-là qu'on a à nos morts et à nos mortes, quoi. L'amour, il ne s'arrête pas parce que la personne, elle meurt. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui circule encore, quoi. Et après, même de manière vraiment très scientifique, matérielle, enfin, les personnes qui sont enterrées, du coup, ça deviennent de la terre. La terre, elle devient bien autre chose aussi. Elle devient des arbres, elle devient le végétal. Ce végétal-là est mangé. Bon, c'est vraiment juste un truc de biologie très, très bête, hein. Mais en ce sens-là, c'est quelque chose qui est, même chose, très présent dans beaucoup de cultures du Sud et qui a été qualifié d'animal. Qui a été qualifié de, voilà, donc de dire ça, en fait, tout est vivant ou tout est mort, mais enfin, cette frontière-là est poreuse, les choses transitent, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui m'est très présent, et non seulement qui m'est très présent, mais qui m'est très cher, quoi, très cher à mon cœur. Et évidemment, du coup, je voulais que le roman puisse montrer cette chose-là aussi, et qui montre aussi à quel point ces existences-là, elles sont immenses, elles sont dignes, en fait. Il n'y a aucun moment où on bascule d'un côté d'une inhumanité immense, ça n'existe pas.
Vous avez répondu à ma question sans l'oublier. Avant de passer la parole aux lecteurs et aux lectrices, vous pourriez peut-être lire un petit passage de vos textes, vu qu'on a une rencontre sur les mots, on pourrait faire résonner les mots dans le chapiteau.
Ma douce, Ils te diront que les hommes naissent libres et égaux, et toutes sortes de formules magiques. Écoute celle qui pleure, garde l'est, des flopées de gosses dans les bras. Le silence de celle qui ne pleure même plus, celle qui hurle muette, parce que le langage ne suffit pas à accoucher de leur souffrance. Ma douce, le langage ne suffit pas. Il nous reprocherait de ne dire qu'un mot, d'utiliser des phrases tordues, de trébucher sur les virgules, d'aboyer des insultes, à croire que leur langage fleuri est en mesure de reconstruire l'immensité de notre réel. Et ils osent se réclamer d'Homère, comme si nous n'étions pas ceux qui, jour après jour, agrippent la laine des moutons pour échapper à Polyphème, comme s'ils avaient un jour brandi les armes pour venger leurs frères, comme si 10 ans durant, je n'allais pas devoir fendre les mers pour retrouver les miens. Ma douce, le langage naît de la chair. Il est la somme des fissures qui craquellent pour que la bouche puisse enfin sentir les marées de l'air noyer les poumons. Il est débordement des brèches, le fil rouge qui prend racine dans les os de nos ancêtres et se tord sur la pointe de nos dents pour recrier la fin. L'écriture surgit de l'absence. Si je trace des plans sur le grand vide, sauras-tu funambuler jusqu'à moi? Je me suis dit le fil, tisse le fil. Je me suis dit tresse le langage et la corde jetée dans l'océan pour que tu puisses franchir le jour. Il s'agit de vivre, aller de minuit à minuit, encore et encore et encore.
Magnifique texte. Alors, moi, ce texte, je dois le lire debout. Il y a des poèmes qui se lisent debout. Je suis de la génération des émeutes de la faim, des guerres d'Irak, de la chute du mur de Berlin. De la génération du pétrodollar, des tours jumelles et du tiers-monde, des grands patrons, des vrais pauvres et des fonds de pension. Des vitres blindées, des capotes du sida, des cartes SIM et des sonneries polyphoniques. Des suicides collectifs, des combats à main nue, des écrans plats et des massacres à la machette. Des ordinateurs de poche, des centrales nucléaires, des espèces en voie de disparition et des balles en caoutchouc. Je suis de la génération des tomates en décembre et des voyages dans l'espace, de la bourse et de la cocaïne en ligne, du recyclage, de Romillon, des bidonvilles, des mines antipersonnelles, des injections de Botox, des centres de rétention, des charters, des frontières à angle droit, des distributeurs automatiques, des SMS et du Paris-Dakar. Je suis de la génération du pain sous cellophane et des jeux télévisés, de vigipirates, des chanteurs déprimés, du périphérique et du bitume sur les pavés, de la restauration rapide, du string et des amours en silicone, des minutes de silence, des tremblements de terre, des acédiques, des assistantes sociales et des remises de peine, des crédits à la consommation et des adresses e-mail. Je suis de la génération des attaques préventives, de la violence légitime et des défenses anti-aériennes, défense d'afficher, défense d'entrée, défense de stationner, défense de descendre avant l'arrêt complet du véhicule. Je suis fils de la haine, nourri au sein des colères muettes, des révoltes silencieuses. Je suis le frère des orphelins jeteurs de pierres, des apatrides, des peuples en exil, des clandestins, des sans-papiers, des sans-abri, des sans-voix, des sans-destins. Je suis une bombe entre les mains d'un fou, je suis le pire du pire. Je suis un produit occidental.
Il nous reste quelques minutes. Si jamais vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas à lever la main. On peut vous passer un micro. Une dernière question ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut terminer sur ces très beaux mots, vos très belles lectures. Et je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous dire que vous pouvez retrouver Rouda et Sarah à l'espace dédicace juste à côté de la librairie. Merci à vous et très bonne journée, bon festival.
Merci, messieurs-dames, merci.